affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Academy, merci de votre fidélité. Dans notre émission de ce jour, nous allons scruter notre monde pour tenter de déterminer s'il a un sens et si oui, lequel. Nous allons tenter de penser l'histoire du temps présent. C'est une tâche évidemment ardue, complexe, et c'est pourquoi nous n'allons pas, fort heureusement, l'entreprendre seul. Nous allons le faire en nous appuyant sur l'un des plus grands penseurs de l'histoire, qu'est Hegel. Et nous allons le faire car nous y sommes invités par Bernard Bourgeois, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, professeur de philosophie, qui nous y invite donc dans un récent ouvrage justement titré « Penser l'histoire du temps présent avec Hegel ». La thèse de l'ouvrage pourrait se résumer ainsi. C'est encore et toujours Hegel qui nous aide le mieux pour tenter de comprendre l'époque paradoxale, incertaine, complexe, disions-nous, en préparation de cette émission, qu'est notre époque. Mais il y a d'autres aspects dans ce livre. Je précise d'emblée qu'il ne s'agira pas seulement de défendre la pensée d'Hegel contre ceux qui la remettent en cause aujourd'hui, qui remettent en cause sa validité, mais qu'à travers cet examen, c'est l'époque surtout qui sera scrutée dans ses différents aspects, y compris les plus brûlants. Bernard Bourgeois, merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est moi qui suis très heureux et honoré de cette invitation et je m'efforcerai de proposer quelques éléments, très prudemment d'ailleurs, toujours un risque de penser, et il est grand lorsqu'il s'agit de penser le monde si complexe dans lequel nous vivons. Mais enfin, il faut bien essayer.
Est-ce que c'est la genèse du livre d'ailleurs, cette volonté de décrypter ce monde présent ?
Hegel considérait que tout ce qui a sens est inséré dans un contexte spatio-temporel sensible qui peut emporter ce sens dans le cours d'une histoire qui s'est accélérée, mais il faut nécessairement s'inscrire dans le présent pour essayer de comprendre l'être dans tous ses aspects. C'est toujours à partir d'une insertion dans le présent, aussi complexe et difficile soit-il, que l'on peut penser de façon effective, même les réalités qui sont extra ou qui sont supramondaines. Il faut s'insérer dans le moment présent de l'histoire.
Donc l'universel est dans le particulier, en quelque sorte, si je
simplifie. L'universel s'exprime toujours, se développe toujours dans la singularité la plus concrète. L'universalisme est dénoncé souvent comme abstrait, et cette dénonciation est souvent pertinente et judicieuse, mais il faut nécessairement, même lorsqu'on veut penser de façon éternelle, il faut nécessairement s'inscrire dans le présent le plus concret et le plus singulier. C'est toujours dans les singularités que se joue le sens de l'universel. Et dans certaines singularités qui constituent des événements marquants de l'histoire du monde. Il faut donc essayer d'atteindre le sens le plus éternel des choses à partir de ces manifestations les plus singulières spatio-temporellement.
Alors justement, si on se plonge dans notre monde, en observant les singularités, mais aussi peut-être sa singularité, que voyons-nous de différent et qui pourrait pousser certains à considérer que la vision hegelienne de l'histoire serait en quelque sorte caduque, invalidée par ces singularités d'aujourd'hui.
La vision hegelienne du monde a profité, si je puis dire, de l'un de ses thèmes favoris, à savoir que le positif n'est vraiment tel que comme négation du négatif. C'est toujours la seconde fois qui est la bonne, si je puis dire. La vérité s'exprime d'abord comme une certaine détermination. Cette détermination, en tant qu'elle est une différenciation, qu'elle a un contenu et qu'elle n'est pas une identité vide, se développe en intensifiant sa différence interne. Cela peut aller jusqu'à la contradiction. Et la solution de cette contradiction seule, la négation du négatif de ce qui a d'abord été posé, permet à celui-ci de se poser comme vérifié. Le hegelianisme a été contesté par plusieurs courants, mais en particulier par le courant marxiste. Le monde communiste s'est présenté comme la négation du monde que Hegel avait anticipé comme le monde définitif et que le marxisme considérait comme étant simplement le monde bourgeois. Et cette négation marxiste du hegelianisme a été elle-même niée par l'histoire. En 1989, le hegelianisme a paru confirmé par la chute des régimes qui précisément avaient entrepris de le surmonter et de le dépasser. Alors, on a cru entrer dans ce que Hegel avait appelé la fin de l'histoire, à laquelle on a donné un contenu très variable. J'évoque en particulier le livre de Fukuyama.
Oui, mais il faut le faire. Il faut rappeler cette petite histoire du thème de la fin de l'histoire, si
c'est
vous
ça.
Le voulez bien.
Hegel considérait que l'histoire est animée par une revendication fondamentale de l'homme, qui est la revendication par l'homme de lui-même en tant qu'il est essentiellement une liberté. Mais la liberté est faite d'un certain nombre de conditions d'elle-même, naturelles, sociales, politiques, religieuses, et ces conditions de la liberté font système. Hegel s'est efforcé de les exposer dans son grand livre sur la vie réelle et objective des hommes, les principes de la philosophie du droit, c'est-à-dire de la raison réalisée dans l'existence sociopolitique. Et il considérait que la réalisation par l'histoire des conditions de la liberté, c'est-à-dire des libertés diverses, faisant système entre elles, que cette construction des conditions de la liberté était pour l'essentiel à son époque achevée. Tout au moins que l'humanité avait fini par découvrir en quoi consistait un monde d'existence libre, sociopolitiquement, pour l'homme. Et il considérait que désormais le régime politique fort, mais socialement libéral et solidaire. Un État politiquement fort, laissant se développer en lui et favorisant même le développement en lui d'une société civile mue par deux exigences apparemment contradictoires mais liées, à savoir une exigence d'individualisation de plus en plus poussée de l'existence et une exigence de mondialisation ou d'universalisation la plus poussée de l'existence, que ce régime politiquement fort, socialement libéral d'abord et ensuite solidaire, était le milieu pacifiant définitif de l'existence humaine, que l'histoire avait simplement, ce qui n'est pas rien, à en assurer la réalisation un peu partout dans le monde. La chute du marxisme a semblé confirmer cette vision hegelienne, mais les choses procédant de façon dialectique, c'est Hegel qui l'a dit, le hegelianisme victorieux est entré dans une période d'une contestation d'un type nouveau.
Dans laquelle ?
Par exemple.
Lesquels, même, non ?
Contestation d'un type nouveau. Si nous prenons l'existence des États, Hegel avait assuré que l'État-nation était le milieu de vie objectif définitif des hommes, une fois réalisé dans ses exigences concrètes, qu'il voyait réel, lui, dans ce qu'il appelait la monarchie constitutionnelle, mais dont on peut considérer qu'il aurait pu se satisfaire de l'équivalent actuel de la monarchie constitutionnelle, à savoir une démocratie véritable, avec participation active des citoyens, mais une démocratie présentant également en elle-même une unité, une démocratie forte, si vous voulez, de l'adhésion de ces citoyens participatifs, mais aussi de l'unité de commandement symbolisée et réalisée dans le chef d'État. On peut dire que les régimes les plus avancés de la planète sont bien caractérisés par une unité politique forte qui s'actualise à travers notamment le chef de l'État, quel qu'il soit. On l'appelle président, il peut être encore monarque dans certains pays.
Oui, et puis
pays,
on connaît même quelques présidents qui ont des traits assez monarchistes.
Voilà, non, mais et puis participation des citoyens. Alors, ce régime a été contesté à l'extérieur de lui-même et à l'intérieur de lui-même. À l'extérieur de lui-même, on a vu, du fait de la répétition de conflits entre les États-nations, conflits, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, on a vu qu'il fallait que les États-nations s'efforcent d'institutionnaliser des relations pacifiques entre eux par la création d'organisations supranationales. Il y a eu la SDN, ensuite il y a eu l'ONU. Et de nos jours, cette exigence d'un dépassement des États-nations et de leurs gouvernements s'actualise, si vous voulez, se réalise à travers l'exigence d'une gouvernance supranationale, qu'elle soit continentale, européenne ou qu'elle soit mondiale. Il a donc semblé que le hegelianisme avait clos l'histoire trop tôt et que la créativité du développement historique se manifestait à travers cette création d'organisations, d'organismes supranationaux relativisant la souveraineté des États-nations. Et puis alors, à l'intérieur...
Oui, mais terminons peut-être sur ce...
Oui, mais pour l'instant, je cherche des arguments...
Oui. Vous allez dans le sens de ceux qui contestent.
Contestant...
Nous répondrons ensuite.
L'égalité présente du monde. Construction de l'Europe, relations internationales qui tendent à s'institutionnaliser de façon plus forte. Et puis alors, à l'intérieur des États... Hegel considérait que le système sociopolitique rationnel construit à travers des instances régulatrices sociales, mais surtout réglementaires politiques, ce système objectif, la constitution des États rationnels, que ce système était la base nécessaire que les individus devaient intérioriser pour y adhérer et que, par conséquent, les États, à l'intérieur d'eux-mêmes, pouvaient confirmer le hegelianisme. Mais tout un mouvement s'est développé de nos jours de relativisation de la structuration objective des conditions d'existence des hommes à travers les institutions, les réglementations sociales et politiques. Il y a une revendication subjective, subjectiviste, qui se déploie. Les institutions, c'est bien, mais la participation, c'est mieux. on dénonce comme une fossilisation la représentation des citoyens dans un État par d'autres citoyens. On fait l'éloge de la présence active des citoyens dans la vie politique. On oppose ainsi donc la démocratie directe à la démocratie représentative. L'institution, c'est bien, mais encore une fois, je leur dis, la participation, c'est mieux. Les réactions subjectives sont devenues une chose de plus en plus importante, et c'est ce que l'on considère et que l'on constate à notre époque. Les sujets veulent s'affirmer, leur réaction est chose très importante, et on considère que cette subjectivation de la vie objective sociopolitique est le mot d'ordre du jour. Par conséquent, une vague de subjectivisme, le politique doit se ressourcer dans le social qui est plus concret, qui est plus mobile, et le social lui-même doit dépasser ses règles, ses usages qui sont particularisants. Le social doit se ressourcer dans son origine avant, enfin, son objectivation trop rigide dans des institutions, les classes, les professions, les métiers, les associations très structurées, etc. Il doit se ressourcer dans son origine vivante, à savoir dans le lien direct des individus les uns avec les autres, dans ce qu'on peut appeler comme cœur du social, le sociétal. La loi, c'est bien le contrat qui met en évidence et en valeur les individus contractants. Le contrat, c'est mieux. Et le contrat absolument révisable, c'est mieux que le contrat qui tend à se légaliser. Le mouvement sociétal, la sociétalisation du social et à travers lui du politique, me semble être un mouvement essentiel de notre époque. Vous voyez, les individus veulent ressentir à nouveau la puissance du lien natif entre eux. On aime les rencontres imprévues. On aime changer les relations. La fête des voisins est emblématique de notre époque. Voyez, retourner à cet état où le moi, en s'affirmant lui-même, affirme en même temps le toi, retourner à cette intersubjectivité où chaque sujet, enfin, se réalise non pas en s'objectivant ou en s'aliénant dans une institution, mais en rencontrant un être, un autre, mais qui soit lui-même et dont l'affirmation ne fasse qu'un avec la sienne. C'est une sorte de revivification de l'anarchisme, de l'optimisme anarchiste, affirmant que le sujet s'affirme en affirmant les autres. En tout cas, l'intersubjectivité semble être, plus que l'objectivation sociopolitique, semble être le lieu de la réalisation maximale de l'individu. J'existe dans la relation avec l'autre sujet. L'intersubjectivité se substitue en quelque sorte à l'objectivité. Elle est ce qu'il y a de vrai dans l'objectivité. Alors, on le trouve à tous les niveaux. Qu'est-ce que c'est que la vérité, c'est ce qui naît dans le dialogue, dans l'échange, dans le consensus. Habermas, Rawls ont fait l'éloge de ces conditions de la naissance de la vérité dans l'argumentation dialogante. Le vrai milieu où l'homme s'épanouit n'est pas le milieu politique, qui est un milieu rigidifié, fermé. C'est l'espace public. L'espace public qui ne comporte pas cette intervention de l'État où les individus peuvent échanger les uns avec les autres de la façon la plus libre qui soit. Certains caractères donc de l'évolution présente, et ça, on peut bien dire, c'est anti-hégélien. Alors,
il y a un mais, j'imagine.
Pardon ?
Il y a un mais.
Oui, il y a un mais. Je pense que la participation, avec ses frémissements, avec son imprévu, avec ses émotions, ses exaltations, la participation suppose, présuppose un climat pacifié entre les individus. La participation présuppose l'institution comme le cadre dans lequel elle peut développer ses jeux, mais qui constitue une sorte de luxe. Et c'est bien parce que finalement l'État est là, et est présent et intervient non seulement dans le domaine politique mais aussi dans le domaine social. C'est bien parce que l'État est là et fait régner l'ordre, même si celui-ci va de soi et donc apparaît comme existant naturellement, alors qu'il est bien l'œuvre quand même des volontés, c'est parce que l'État garantit ce milieu ordonné, pacifié, que les individus peuvent se réjouir, se distraire, se complaire, etc., s'exalter en s'adonnant à la vie intersubjective et à la participation. Donc, la structure fondamentale du monde n'a pas changé. Ce n'est pas parce qu'on dit que je change les choses qu'on les change véritablement. Je considère que la structuration telle que Hegel l'avait décrite du monde contemporain le plus avancé, cette structuration, c'est ce qui assure ce cadre dans lequel les individus peuvent se délecter au jeu de l'intersubjectivité.
En résumé, c'est l'État hegelien qui permet aux gens de développer des comportements post-hegeliens.
Si vous voulez, la vie ne peut s'exalter que dans la paix, et il n'y a de paix que dans l'ordre, et l'ordre véritable, l'ordre légal, assuré finalement par l'État. Le rôle de l'État est un rôle permanent et constant, et ce n'est pas parce que l'État existe sans étatisme, ou parce que l'autorité de l'État ne se manifeste pas par un autoritarisme quelconque, ce n'est pas pour autant que ce rôle n'existe pas.
Toutefois, les mots mêmes le disent et montrent le danger qu'il peut y avoir. Intersubjectivité, subjectivité, post-nationale, post-politique, tout ça quand même, ce sont des substances très corrosives.
Bien sûr.
Est-ce qu'un État peut continuer à vivre sans que l'allégeance soit consciente, sans que les citoyens le soutiennent réellement?
Il est bien certain que la dimension subjective qu'on trouvait autrefois dans le patriotisme, que la dimension subjective de l'existence politique, cette dimension subjective est fondamentale. C'est bien entendu, les institutions doivent rester vivantes, et elles le sont par l'attachement actif des citoyens qui doivent trouver leur satisfaction à l'intérieur de l'État, non seulement en pratiquant une vie non politique, mais par exemple sociale, dans l'existence pacifiée est bien garantie par l'État. Bien entendu, des institutions ne suffisent pas. L'objectivité doit être intériorisée subjectivement et les citoyens doivent être satisfaits par ces institutions. Mais il n'en reste pas moins que ces institutions sont absolument nécessaires. Et je crois que Hegel a dit en quoi elles consistaient arriver à la période qu'il appelait celle de la fin de l'histoire, c'est-à-dire la période dans laquelle les hommes savent en gros en quoi consistent les conditions de la liberté objective, de la liberté sociopolitique, et ces conditions sont celles qui sont réalisées, encore une fois, dans les États les plus avancés de la planète. Donc, animer l'ordre objectif de la coexistence des hommes, très bien. Que cet ordre soit un ordre vivant, bien sûr, mais encore faut-il qu'il existe. Et de ce point de vue-là, je crois que le monde contemporain confirme la pertinence des anticipations hegeliennes, parce que lorsque Hegel l'a décrit, ce monde était un monde qui n'existait pas d'ailleurs déjà dans son propre pays, puisque ce qu'on appelait la constitution de l'Allemagne était un héritage du passé qui était bien loin encore de la rationalité hegelienne. Donc, pour l'essentiel, le monde dans lequel nous vivons est un monde en gros hegelien, et je faisais remarquer tout à l'heure, les institutions internationales n'ont pas une effectivité par elles-mêmes, une effectivité politique supranationale, puisque l'existence de la SDN, de l'ONU et de toutes les agences internationales, quelles qu'elles soient, montre bien que finalement tout ce qui s'y fait, tout prescrivent et qui est réalisé, l'est, parce que les souverainetés nationales, finalement, donnent le raccord.
Oui, le souverain reste souverain, en quelque sorte.
Le pouvoir de décision reste un pouvoir national. La force des organisations internationales réside dans l'accord que leur donnent les puissances nationales. Et on sait bien, je ne vais pas évoquer, mais enfin, quelles sont les relations complexes entre les Nations Unies et les États-Unis, qui ont été jusqu'à maintenant le bras armé efficace des Nations Unies. Et par conséquent, il ne faut pas juger la réalité d'un monde parce qu'il ne fait qu'exister en lui, mais parce qu'il est effectif. C'est une distinction hegelienne importante, celle entre l'existence et ce que Hegel appelle l'effectivité. Tout ce qui existe n'est pas véritablement réel. L'existence est fugitive. La réalité vient de ce qui existe s'unit, s'intériorise, s'approfondit en lui-même à travers des liens qui dépassent la simple succession spatio-temporelle. Ces liens, c'est ce qui s'exprime dans ce qu'on appelle des relations essentielles, des relations de causalité, de finalité, qui nouent ensemble le développement historique et dont les modalités les plus efficientes sont constituées jusqu'à maintenant par les États.
Alors, on pourrait dire, par exemple, pour être sûr de bien comprendre,
oui,
qu'un mouvement supranational ou en faveur de ce type de,
oui,
système existe,
bien
mais
sûr,
n'est pas effectif.
Bien, c'est-à-dire qu'il n'a pas abouti à la création d'unité supranationale réelle, c'est-à-dire qui, à un niveau supérieur à celui des nations existantes, constituerait une supernation. L'unité n'est même pas fédérale, elle est à peine confédérale. Et c'est pourquoi je crois qu'il ne faut pas que les politiques considèrent que leur tâche fondamentale, c'est de réformer sans cesse pour améliorer la constitution politique, de réformer l'État, de réformer les moyens politiques dont l'humanité dispose pour régler les problèmes qu'elle seule, comme autorité, est capable de faire se résoudre, sinon de résoudre, parce que la seule activité efficiente à l'échelle de l'humanité est celle qui est le fait des États-nations. L'efficience, c'est l'efficience politique, elle se situe au niveau des États-nations. Alors, que les États s'efforcent d'institutionnaliser le plus possible leur collaboration, qui est nécessaire pour régler des problèmes, si vous voulez, dont la portée est universelle. Le problème du retour de la nature dans l'histoire humaine, les problèmes de l'écologie, la climatologie, etc. Les États doivent se concerter et doivent institutionnaliser le plus possible leur interaction, mais je pense qu'il ne faut pas qu'ils considèrent que leur action ne peut être engagée qu'une fois leur interaction intensifiée dans son organisation. Il faut qu'ils s'attaquent avec les moyens du bord, dans leur structure plurielle, il faut qu'ils s'attaquent aux problèmes objectifs qui les attendent, qui nous attendent. Je pense en particulier aux problèmes constitués par les migrations africaines, qui sont un problème à bout portant pour l'Europe. Eh bien, il ne faut pas que les États ou que les politiques pratiquant un narcissisme tout à fait dérisoire considèrent que leur tâche principale, c'est de régler des problèmes politiques, des problèmes de constitution et d'organisation politique. Il faut, avec encore une fois les moyens du bord, qu'ils s'attaquent en se concertant le plus possible, sans vouloir attendre de s'être constitué en un État supranational, continental ou mondial. Il faut qu'ils s'attaquent aux problèmes objectifs qui sont des problèmes non originairement politiques, mais liés à la démographie, à la climatologie, à l'économie. Les tâches de l'autorité politique sont des tâches les plus urgentes qui ne sont pas de nature politique, mais seuls les problèmes qui se posent aux humains, seule la politique peut s'en charger, car elle est le lieu de la volonté efficace des hommes pour l'instant.
Je comprends, vous dites qu'ils ont l'outil nécessaire, que c'est l'État-nation tel que défini par Hegel, et que plutôt que de réfléchir à sa réforme, il ferait mieux d'utiliser cet outil pour résoudre les problèmes.
Je dénonce donc ce narcissisme politique qui voudrait que les problèmes principaux que la politique doit régler soient des problèmes politiques et des problèmes d'organisation.
Institutionnels, oui, bien sûr.
D'organisation politique. C'est pas ça du tout. Il faut, sans attendre, s'attaquer à ces problèmes de toutes sortes, qui ne sont pas d'abord des problèmes politiques. Donc, réformer l'État, oui, ça ne peut pas être un objectif prioritaire. Voilà. Je trouve que c'est une sorte d'alibi qui détourne des impératifs les plus urgents.
Est-ce que vous ne pensez pas que les politiques se sont, par manque de courage, laissés volontairement dessaisir de leurs prérogatives? Est-ce que ce déclin du politique est quand même réel? On sent quand même que le politique s'est effacé quand même au profit, je sais pas, des experts, par exemple. Au profit de ces instances internationales qui, sont peut-être pas effectives, mais enfin existent quand même. Est-ce qu'il n'y a pas une fatigue du politique?
Oui.
Et est-ce que finalement, ce qui menace cet État hégélien, même si les structures sont encore là, parce qu'on en a hérité, c'est pas cette fatigue.
Oui.
On a l'impression d'une lassitude. On a l'impression qu'ils ne veulent plus s'emparer de ce sceptre. Le sceptre existe,
oui.
Mais il n'est plus brandi. Il est laissé un peu à qui voudra le prendre, parce que comme s'il brûlait les doigts.
Oui, oui. Mais vous avez raison. Je pense que ce qui fait défaut, essentiellement, c'est le courage. Le courage d'affronter des problèmes urgents en utilisant les moyens politiques ou les structures politiques existantes, sans vouloir, parce que c'est là qu'est l'alibi, sans vouloir disposer d'un outil politique performant, plus performant, pour essayer de régler des problèmes qui n'attendent pas. Donc, pas de narcissisme politique. La vie politique est une vie exaltante. Elle peut être enthousiasmante, elle peut être effroyable. Il y a des tragédies politiques. Bon, c'est une activité exaltante, mais ce n'est pas sa préoccupation d'elle-même, vous voyez, qui lui permet d'assumer ce qu'elle doit être. Elle doit se préoccuper des problèmes existants, et les problèmes existants actuellement à l'échelle de l'humanité sont des problèmes qui ne sont pas d'abord d'ordre politique, mais qui ne peuvent être traités que politiquement,
par la médiation du politique, oui,
parce que c'est au niveau de la politique que se prennent les décisions et que les moyens de toute action peuvent être mis en œuvre, peuvent être synthétisés, rassemblés et appliqués de façon concertée. Si vous voulez, la tâche prioritaire de la politique n'est pas une tâche politique.
Mmh. Oui, il faut qu'elle se retourne à nouveau vers le réel plutôt que vers elle-même.
Voilà.
Une autre question peut-être encore plus provocatrice. Ou... Est-ce que ce monde hegelien, finalement, ces outils hegeliens, tels qu'ils ont été conçus quand même dans la tradition de l'histoire européenne des Lumières.
Oui.
Est-ce que finalement, la considérer comme une solution universelle, ça n'est pas faire preuve d'une forme d'ethnocentrisme, mais est-ce que le déclin de cette vision, le déclin relatif ou cette lassitude dont je parlais, ne vient pas du fait aussi que finalement l'homme européen ne se sent plus aujourd'hui comme ni le centre du monde, ni comme celui qui a le droit de penser le monde. Et de fait, on voit que le monde est devenu multipolaire d'un point de vue économique, oui, oui, et politique, certes, mais pas seulement. Il y a des contestations radicales de cette façon de penser l'histoire de l'humanité, même la vocation ou les fins dernières,
oui,
de l'homme. Qu'en pensez-vous ?
J'ai fait l'éloge du politique, mais le politique, et c'est le rôle du penseur, et tout homme pense, tout homme est un penseur, de réfléchir sur lui de façon à éviter deux dangers. Celui, d'une part, de la réduction du politique, dans la mesure où il est vrai, si le lieu de l'emploi concerté des moyens ou de la force et le politique, les moyens que le politique met en œuvre ne sont pas des moyens politiques, ce sont des moyens sociaux, la confiance des hommes, ce sont des moyens économiques, ce sont des moyens financiers, etc. Le politique, si vous voulez, doit donc veiller à ne pas réduire, entre le politique, un danger consiste à sous-estimer le politique et à le réduire sous prétexte qu'il ne désigne qu'un moment de l'organisation de l'existence humaine. Il ne faut donc pas réduire le politique comme on a été tenté de le faire en particulier à travers le mouvement socialiste. Le mouvement socialiste pensait que l'État n'était qu'un instrument de la classe privilégiée, qu'il devait disparaître avec l'universalisation de cette classe, le prolétariat, et la cessation de la division en classe. Il ne faut donc pas réduire le politique, comme les régimes socialistes l'ont fait, même si le politique doit prêter la plus grande attention au niveau social de l'existence, à la fois reconnaître la spécificité du social, voire même du sociétal, libérer en lui le plus possible la vitalité économique, etc. Mais il ne faut pas non plus absolutiser le politique. L'absolutiser en voulant dissoudre le social dans le politique, ça s'est fait dans l'histoire des mouvements autoritaires. Non pas non plus absolutiser le politique en faisant une sorte de religion. Hegel, justement, définissait le politique, définissait le mouvement révolutionnaire comme un mouvement fanatique, parce qu'il identifiait la religion au politique. Le fanatisme consiste toujours dans l'identification du religieux et du politique.
Dans un sens ou dans l'autre.
C'est-à-dire du sacré et de la force effective. Voyez ? Alors, ça peut se faire au bénéfice de la politique qui se fait religion, Robespierre. Ça peut se faire dans l'autre sens, lorsque c'est la religion qui absorbe le politique, l'islam. Et c'est pourquoi Hegel comparait très significativement le fanatisme de 1789, Robespierre, et le fanatisme musulman, Mahomet. Robespierre et Mahomet représentent les deux faces d'un même fanatisme. Robespierre fait de la politique la religion, Mahomet fait de la religion la politique. Dans les deux cas, on a affaire à un terrorisme qui est la destruction même de l'histoire, la destruction de l'histoire, puisque la réalité de l'histoire consiste dans une réalisation extérieure progressive du sens intérieur qu'elle a. Alors que le fanatisme fait se télescoper l'intérieur et l'extérieur, l'extérieur absolutisé en étant intériorisé en religion, la Révolution française, la Révolution de l'Occident, et le fanatisme musulman qui fait s'extérioriser l'intérieur, qui absorbe ainsi en lui-même l'extérieur, la religion se faisant politique et la politique se faisant religion, sont les deux formes du fanatisme, l'une qui a été proclamée dans les premiers siècles de l'ère rationnelle chrétienne par la naissance de l'islam, et l'autre, la révolution de l'Occident, qui, presque au terme de l'évolution du monde historique rationnel, a tenté de bloquer cette évolution qui devait déboucher, heureusement pour Hegel, dans la constitution, à travers Napoléon déjà, etc., de l'État vraiment rationnel qui fait sa place à la politique et à la religion, sans les confondre. Robespierre et Mahomet représentent les deux formes, dans les deux sens possibles, de l'identification de la politique et de la religion, c'est-à-dire du fanatisme dont le mode d'action est le terrorisme, négateur de l'histoire, et de la liberté, dont l'affirmation constitue précisément le sens qui meut l'histoire. Et je trouve que...
C'est pourquoi vous pensez qu'ils sont condamnés, enfin, pardon, à la lecture, c'est pourquoi à la lecture des gueules, ils sont condamnés par avance.
Voilà.
Ce ne sont que des péripéties, en quelque sorte. Sanglantes, catastrophiques, tragiques, mais des péripéties.
Voilà. C'est assez intéressant, si vous voulez, cette mise en parallèle des deux révolutions. La révolution de l'Orient, d'abord, de l'islam, la révolution de l'Occident, la révolution française, en son aspect... extrémiste, Robespierre, une qui a surgi peu après le début de la dernière période de l'histoire, celle où elle entre dans la constitution de l'État vrai, qui s'institue de façon autonome, immanente, sans absorber la religion, et sans non plus vouloir sans absorber la religion et sans se laisser absorber par elle. Et l'autre, la révolution de l'Occident, peu avant l'entrée dans la fin de l'histoire. Donc l'islam, peu après l'entrée dans la fin de l'histoire, et la révolution française, peu avant l'entrée dans la période finale de la Constitution, donc de l'histoire dans sa vérité, qui débouche sur la monarchie constitutionnelle et ce que nous appelons nous, aujourd'hui la démocratie à la fois populaire et forte, où les citoyens participent et où le chef de l'État assure l'unité de l'ensemble des citoyens. J'ai toujours trouvé ce rapprochement assez curieux. La dernière période de l'histoire marquée par le christianisme est celle qui réconcilie Dieu, l'universel, et l'homme, le singulier, à travers l'affirmation
de l'incarnation.
De l'incarnation. Donc, la période où l'universel et le singulier se réconcilient, où l'unité et la différence, l'identité et la différence se réconcilient, et pour Hegel, l'identité de l'identification et de la différenciation, c'est ce qu'il appelle la raison. Et donc, peu après la naissance, d'abord sous forme religieuse, de la raison moderne, on a cette tentative pour y mettre un terme en revenant à l'unité absolue d'Allah qui domine les singularités, le monde créé de façon tyrannique. Et d'autre part, peu avant la clôture de cette période ultime de l'histoire qui va faire entrer dans la période de la monarchie constitutionnelle, etc., nous avons le sursaut révolutionnaire français qui, de façon inverse, dissout l'unité dans la différence, dans les individus, etc., qui se soupçonnent les uns les autres, d'où la loi des suspects, etc., et qui échouent à constituer un véritable gouvernement des hommes. Un peu après, contestation islamique, un peu après le début, contestation islamique, un peu avant la fin, contestation révolutionnaire. Dans les deux cas, c'est Hegel qui parle à travers moi, si je puis dire, dans les deux cas, nous avons deux explosions de fanatisme qui n'ont pas réussi à détruire la rationalisation de l'existence qui consiste à réconcilier l'universel et le singulier, le tout et l'individu, Dieu, le divin et l'humain, dans une réunion organique qui fait sa place à la politique, qui fait sa place à la religion et à l'intérieur de chacune d'elles, fait droit aux exigences et de l'autorité et de la liberté. Voilà ce qui me semble grand dans la pensée hegelienne, qui fait qu'elle nous aide à mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons et que Hegel n'avait pas pu prophétiser, mais dont sa théorie est telle qu'elle nous permet de comprendre sa possibilité à ce monde et de le justifier d'une certaine manière. Vous voyez, c'est la marque des grandes pensées de maîtriser à ce point la condition historique des hommes qu'elle garde leur validité bien au-delà de la période où elles sont nées.
Est-ce qu'on peut se permettre une dernière question sur le monde d'aujourd'hui?
Oui.
Tel que vous décrivez ce système hegelien, c'est un système qui vise à l'équilibre, à l'harmonie par l'équilibre,
oui,
entre les aspirations humaines, qui vise à les combiner. On a évoqué les deux réactions qui étaient la terreur sous la Révolution française et auparavant, donc la Révolution islamique initiale sous Mahomet. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas un... Parce qu'après tout, un équilibre, ça peut être rompu d'un côté, mais ça peut être rompu aussi de l'autre côté. Est-ce que sorte de dissolution des communautés politiques, cette terre subjectivité dont vous parlez, ce monde devenu un peu liquide, avec le refus d'être situé, le refus même d'être déterminé, le refus de tout essence, n'est pas un danger. Le politique grignoté par l'économique aussi, voire même, vous l'évoquez dans l'ouvrage, la volonté de l'homme de devenir tellement son propre maître, mais l'homme en tant qu'individu, et de se réinventer lui-même. Certains discours transhumanistes, post-humanistes sont à cet égard assez sidérants. Est-ce que tout cela ne forme pas un danger finalement beaucoup plus important, beaucoup plus, en tout cas une pensée beaucoup plus déstabilisante que ne pouvait l'être celle de Robespierre ou même de Mahomet, qui ont au moins l'honnêteté de procéder par manifeste, d'annoncer les choses, et donc de rester... malgré tout, dans une forme de dialectique. Ouais. Alors que cet autre danger-là, il n'a d'autre limite que les pulsions, les désirs, les émotions, les caprices même, dirais-je. Que ressentez-vous face à cela? Moi, du vertige. Mais à l'aide des gueules, comment répondre à cela?
Il est, si vous voulez, ce que Hegel a défini l'homme par la liberté... Il a défini la liberté par un certain nombre de conditions qu'il a délimite, qu'il a mesure. Et on peut dire que sa pensée nous propose une mesure de l'homme. L'existence humaine, telle que nous connaissons l'homme, l'existence humaine n'est pas possible dans n'importe quelles conditions. Des conditions naturelles, climatiques, des conditions culturelles, des conditions proprement historiques, des conditions sociales, des conditions politiques, etc. Donc, il y a une mesure de l'homme qui naît lorsqu'est assurée plus qu'un certain équilibre. Lorsqu'est assurée une certaine systématisation ou totalisation hiérarchisée des conditions de l'existence humaine. Hegel lui-même remarquait la terre et les cieux, dans la formule biblique, passeront. C'est-à-dire que l'histoire ne pourra continuer en tant qu'elle est la réalisation progressive par l'humanité des conditions d'une vie libre, c'est-à-dire heureuse, parce que satisfaite. L'histoire telle qu'elle est conditionnée déjà par le devenir de la nature. Et Hegel le souligne, le temps de l'histoire et des conflits proprement historiques ou des crises n'a pu intervenir qu'une fois que le géant naturel, dont l'existence était remplie, peuplée de ces grands bouleversements, de ces grandes catastrophes naturelles qui étaient comme les cauchemars de la vie endormie de la nature. Ils ont cessé lorsque le jour est né dans la nature, la lumière s'est concrétisée dans la nature à travers l'esprit et l'esprit de l'homme. Alors, l'histoire conditionnée par la nature a pu se développer. Mais le conditionnement de la nature est un conditionnement dont on ne peut pas, qu'on ne peut pas mesurer à ce qu'il aurait simplement de positif. Le conditionnement de l'existence humaine par la vie naturelle est un conditionnement qui peut être aussi négatif. Et le problème est de savoir, alors qu'il semble que la nature, comme acteur incommensurable de l'existence, fait retour au sein des relations entre les hommes, l'histoire de la nature semble revenir, modifier l'histoire humaine. Le problème est de savoir si ce retour de la nature dans l'histoire humaine comme un acteur immaîtrisable au fond est un retour qui a été provoqué par les imprudences de l'histoire humaine, et je vois ici, j'attache tous les thèmes écologiques, etc., ou si, hypothèse beaucoup plus pessimiste, ce retour de la nature serait un retour proprement naturel. Mais Hegel le dit, le ciel et la terre passeront, ça veut dire qu'il n'est pas dit que l'histoire, l'historicité humaine sera toujours possible. Mais là, on entre dans les spéculations. Et pour l'instant, l'homme, en sa raison, doit assurer les conditions les plus positives pour que l'humanité puisse continuer d'exister et se libérer toujours davantage, et en compréhension et en extension. Mais, encore une fois, il y a un conditionnement de l'existence humaine par l'existence naturelle. L'accomplissement de la nature, c'est cet être libre qu'est l'homme, mais encore une fois, l'esprit est incarné et les exigences de la naturalité sont des exigences qu'on ne peut pas mesurer et limiter de façon arbitraire, de façon très problématique. Hein. Plus, l'histoire n'est pas possible à n'importe quelle condition. La liberté n'est pas possible dans n'importe quelle condition. L'homme n'est pas possible dans n'importe quelle condition.
Voilà. En plus, pour en prendre la mesure, agir avec raison et peut-être même tempérance. Hein.
Oui, certes.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Voilà une émission qui nous offre des perspectives,
oui,
finalement presque eschatologiques. On était parti sur le raisonnement sur l'effectif, mais vous voyez, on ouvre,
oui,
on
oui,
est considérablement
bien,
ouvert.
Bien,
mais finalement...
bien sûr, bon, enfin, penser c'est difficile. Hegel nous a armés particulièrement dans ce domaine. Je ne vois pas d'autre auteur qui puisse... Enfin, pour l'instant... C'est lui qui me permet le mieux de m'y retrouver dans le monde dans lequel nous vivons, vous voyez. C'est un grand esprit, un très grand esprit. Mais bon, encore une fois, Nous ne sommes pas les maîtres du jeu.
J'allais dire, Dieu merci, oui. Car il y a peut-être une raison au fil de l'histoire humaine.
Ce qui montre que, vous voyez, il ne faut jamais oublier l'objet et les choses. Le subjectivisme dans lequel, qui nous envahit, Hegel considérait que, il le dénonçait à son époque, le plus grand adversaire de la pratique rationnelle de la vie. Cette pratique rationnelle comporte des exigences proprement sociopolitiques et donc historiques. Il considérait que cette pratique rationnelle de l'existence est une pratique qui est toujours à réaffirmer, qui ne va jamais de soi, et qu'elle était menacée à ses yeux, à son époque, précisément par la même chose qui continue de la menacer aujourd'hui, à savoir le subjectivisme. Et il le voyait à l'œuvre en particulier dans l'ironie qu'exaltaient les romantiques. L'ironie, c'est le triomphe du sujet sur l'objet et les choses. Et il voyait dans cet esprit subjectiviste le grand adversaire de la rationalité, de la raison. Je crois que c'est le cas aussi aujourd'hui.
Ah, s'il avait vu aujourd'hui, on est passé de l'ironie au sarcasme pur et simple, donc je pense qu'il aurait été totalement édifié, parce qu'il aurait découvert.
Il faut considérer que la raison, elle est d'abord objective, aussi est d'abord objective, et que la raison subjective n'est vraie et n'a de sérieux que lorsqu'elle est le produit d'une intériorisation de soi, de l'objectivité, alors qu'aujourd'hui, la subjectivité se proclame la raison, mais à vide, et prétend s'imposer à l'objectivité, ce qui est une illusion absolue. Vous voyez.
Pour la combattre, j'invite nos auditeurs à se procurer votre ouvrage « Penser l'histoire du présent avec Hegel et avec Bernard Bourgeois ». C'est publié aux éditions Vrin. Et c'est un ouvrage qui permet effectivement de retrouver quelques lignes de force qui ne sont pas des lignes de fuite dans le chaos, ce monde qu'on pourrait qualifier de touffu ou liquide dans lequel nous vivons, mais dont l'histoire, ça c'est la, en tout cas une certitude, se poursuivra jusqu'à ce que les cieux s'effacent. Merci Bernard Bourgeois.